Cours d'embryologie, Insem Moussorou. Département de production animale, niveau 1. Texte préparé pour lecture audio, introduction. Bienvenue dans ce cours d'embryologie de l'Institut National Supérieur d'Élevage de Moussorou, préparé par Adam Brahim Mahama. Ce cours a pour objectif de faire connaître les principales étapes du développement animal, depuis la formation des gamètes jusqu'à la mise en place des organes. Ignition et historique. L'embryologie est la science qui étudie le développement de l'animal à partir de l'œuf fécondé jusqu'à la naissance ou l'éclosion. L'ensemble de ce processus s'appelle l'ontogenèse, c'est-à-dire toutes les étapes qui permettent à un œuf fécondé de donner naissance à un nouvel individu capable de se reproduire. On distingue plusieurs branches de l'embryologie. L'embryologie descriptive étudie la genèse des formes. L'embryologie expérimentale cherche à comprendre les mécanismes du développement. L'embryologie pathologique, ou tératologie, s'intéresse aux malformations congénitales. Enfin, l'embryologie moléculaire étudie l'expression des gènes au cours du développement. Quelques termes essentiels à retenir. Le zygote et l'œuf fécondé. Le germe désigne les premiers stades du développement, tant que la forme est encore sphérique. L'embryon correspond au stade où une forme reconnaissable apparaît, c'est-à-dire pendant les 8 premières semaines. Le fœtus est le stade à partir du 60e jour, quand l'embryon commence à ressembler à un être vivant. L'embryologie en tant que science moderne a véritablement débuté au début du 19e siècle. À partir des années 1980, la biologie moléculaire a profondément transformé ce domaine, en permettant d'analyser le développement embryonnaire au niveau de l'activation et de la transcription de l'ADN. La fécondation. La fécondation est précédée par la gamétogenèse, qui est l'ensemble des divisions et transformations des cellules souches conduisant à la formation des gamètes mâles et femelles. La fécondation résulte de la fusion d'un spermatozoïde avec un ovule, suivi de la fusion de leur noyau, ce qu'on appelle l'amphimixie. Il se forme ainsi un œuf fécondé ou zygote. Il existe deux types de fécondation chez les animaux. La fécondation interne se produit dans les voies génitales de la femelle. Le spermatozoïde libère des enzymes qui lui permettent de traverser la zone pellucide entourant l'ovocyte. L'ovocyte, qui était bloqué à un stade de division, achève alors sa méiose. Les noyaux des deux gamètes migrent ensuite l'un vers l'autre et leurs chromosomes se mélangent. C'est l'amphimixie proprement dite. La fécondation externe se produit en dehors de l'organisme maternel, notamment en milieu aquatique. C'est le cas chez les méduses ou les oursins, qui libèrent leurs gamètes directement dans l'eau. La fécondation se produit là où la densité en ovules et en spermatozoïdes est la plus forte, grâce à des mécanismes d'attraction chimique. La parthénogenèse est un cas particulier où un œuf se développe sans fécondation. Elle existe naturellement chez de nombreux arthropodes comme les pucerons, les abeilles mâles ou les phasmes. Elle peut aussi être provoquée expérimentalement chez des espèces où la fécondation est la règle, comme l'oursin ou la grenouille. Les œufs. L'œuf est une cellule totipotente, c'est-à-dire capable de donner naissance à tous les types cellulaires de l'organisme. Il possède un pôle animal, qui contient le noyau et donnera la tête de l'embryon, et un pôle végétatif, qui contient les réserves nutritives et donnera la queue. Selon la quantité de réserves vitellines, on distingue plusieurs types d'œufs. Les œufs à laicite sont très pauvres en réserves et se rencontrent chez les mammifères, dont l'être humain. Les œufs oligocytes ont peu de réserves et se trouvent chez les oursins et les procordés. Les œufs hétérolaicites ont beaucoup de réserves et se rencontrent chez les amphibiens, les annélides et certains poissons. Les œufs télolaicites ont un vitellus très volumineux et se rencontrent chez les céphalopodes, les poissons, les reptiles et les oiseaux. Le jaune de l'œuf de poule en est un exemple familier. Enfin, les œufs centrolaicites ont leur vitellus concentré au centre et se rencontrent chez les arthropodes. Les animaux se reproduisent selon différents modes. Dans l'oviparité, les œufs sont pondus à l'extérieur du corps de la mère et le développement s'y poursuit. C'est le cas des oiseaux et des reptiles. Dans l'ovoviviparité, les œufs éclosent à l'intérieur du corps de la mère et les petits naissent vivants, sans que la mère les nourrisse directement. Dans la viviparité, les embryons se développent à l'intérieur de la mère, nourris par le placenta. La durée de gestation varie de 9 mois chez l'être humain à 22 mois chez l'éléphant. La segmentation. Après la fécondation, l'œuf se divise par un phénomène appelé segmentation. L'œuf se clive en un nombre croissant de cellules appelées blastomères, sans que son volume global augmente de façon significative. Il prend d'abord l'aspect d'une petite mûre, c'est le stade morula, puis une cavité centrale appelée blastocèle apparaît. L'embryon devient une blastula. Une règle importante gouverne la segmentation. Selon la règle de Balfour, une cellule se multiplie d'autant plus vite qu'elle est moins chargée en vitellus. Plus l'œuf est riche en réserve, plus la segmentation est lente ou partielle. On distingue deux grands types de segmentation. La segmentation totale ou holoblastique intéresse la totalité de l'œuf et concerne les œufs pauvres en vitellus. Elle peut être égale, quand tous les blastomères sont de même taille, ou inégale, quand les cellules du pôle animal, plus petites, se divisent plus vite que celles du pôle végétatif, plus riches en vitellus. La segmentation partielle ou méroblastique n'intéresse qu'une partie de l'œuf et concerne les œufs riches en vitellus. La segmentation totale peut être de type radiaire, où les blastomères sont disposés en étages réguliers, comme chez l'oursin et les amphibiens. Elle peut aussi être de type spirale, où les blastomères sont décalés les uns par rapport aux autres, comme chez les annélides et les mollusques. La segmentation partielle discoïdale ne concerne qu'un disque de cytoplasme au pôle supérieur de l'œuf. C'est le cas chez les oiseaux, les reptiles, les céphalopodes et de nombreux poissons. La segmentation partielle superficielle concerne les insectes, dont les œufs centrolécites voient leur noyau se diviser d'abord dans la masse vitelline, puis migrer en périphérie pour former un blastoderme périphérique. La gastrulation. Après la segmentation, l'embryon entre dans la phase de gastrulation. À ce stade, les cellules se déplacent selon des mouvements coordonnés appelés mouvements morphogénétiques, qui aboutissent à la mise en place des trois feuillets fondamentaux de tout métazoaire, l'ectoderme, le mésoderme et l'endoderme. Les principaux mouvements de gastrulation sont les suivants. L'embolie ou invagination est le repliement d'un feuillet cellulaire vers l'intérieur de l'embryon, formant une structure tubulaire appelée archentéron, qui est l'ébauche du tube digestif. L'épibolie est le mouvement inverse. Le feuillet de l'hémisphère animal recouvre le feuillet végétatif par-dessus. La migration cellulaire, ou ingression, est le déplacement de cellules individuelles vers l'intérieur. La délamination est la séparation d'un feuillet en deux couches. La prolifération polaire est la multiplication de cellules du pôle végétatif vers l'intérieur. Chez l'oursin, la gastrulation commence 24 heures après l'éclosion de la blastula. Des cellules du pôle végétatif migrent dans la cavité interne pour former le mésoderme, puis la plaque végétative s'invagine pour former l'archentéron endodermique. L'ouverture par laquelle s'effectue cette invagination s'appelle le blastopore et marque la position du futur anus. La bouche se formera plus tard à l'autre extrémité du tube digestif. Chez les amphibiens, comme la grenouille, la gastrulation débute dans la région du croissant gris, zone qui se forme sur le côté opposé au point d'entrée du spermatozoïde lors de la fécondation. C'est la lèvre dorsale du blastopore qui marque le point de départ de la gastrulation. Des mouvements d'invagination et d'épibolie combinés internalisent progressivement les cellules précurseurs de l'endoderme et du mésoderme, tandis que les cellules restant en surface constituent l'ectoderme. Chez les oiseaux, dont l'œuf est très riche en vitellus, la gastrulation se passe très différemment. Elle est marquée par l'apparition d'un épaississement cellulaire appelé ligne primitive, qui s'étend sur l'axe médian du disque germinal. C'est au travers de cette ligne primitive, analogue au blastopore des amphibiens, que les cellules migrent pour former l'endoderme et le mésoderme. Cette organisation en ligne primitive se retrouve aussi chez les reptiles et les mammifères. 11. L'organogenèse est l'ensemble des processus qui suivent la gastrulation et conduisent à la mise en place des ébauches des organes. Elle repose sur des migrations cellulaires, des inductions entre feuillets et des régionalisations progressives. L'ectoderme donne naissance au système nerveux, à l'épiderme et aux organes des sens. Un événement clé est la neurulation. Sous l'influence du mésoderme dorsal, une portion de l'ectoderme s'épaissit pour former la plaque neurale, qui se creuse en gouttière neurale, puis se referme en tube neural, ébauche du cerveau et de la moelle épinière. Les crêtes neurales, qui se détachent des bords du tube neural, donne naissance à une grande diversité de structures. Les ganglions nerveux, les cellules pigmentaires, le cartilage et les os du visage. Le mésoderme donne naissance aux muscles, au squelette, aux reins, au cœur et aux vaisseaux sanguins. Le mésoderme dorsal se segmente en somites, blocs de cellules qui produiront les muscles et les vertèbres. Le mésoderme latéral se divise en deux feuillets séparés par une cavité qui deviendra les cavités thoraciques et abdominales. L'endoderme donne naissance au revêtement épithélial du tube digestif, des poumons, du foie, du pancréas et de la vésicule biliaire. Le développement embryonnaire chez l'homme. La fécondation humaine se produit généralement dans la trompe de Fallope. La première division cellulaire a lieu dans les 24 premières heures. L'embryon n'atteint l'utérus que vers le cinquième jour de développement. Les premières cellules, appelées blastomères, sont totipotentes, c'est-à-dire capables de donner tous les types cellulaires du corps humain. Vers le cinquième jour, l'embryon atteint le stade blastocyste. Ces cellules se différencient en deux types, le trophoblaste, qui forme la couche extérieure et donnera le placenta, et la masse cellulaire interne ou embryoblaste, qui donnera le futur fœtus. Vers le septième jour après la fécondation, le blastocyste composé d'environ 150 cellules s'implante dans l'endomètre utérin. C'est l'anidation. Cette implantation se déroule en trois phases. L'apposition, où le blastocyste entre en contact avec la muqueuse utérine, l'adhésion, où des molécules d'ancrage établissent un contact précis, et l'invasion, où le trophoblaste pénètre dans le tissu utérin. Ce dialogue entre l'embryon et l'utérus fait intervenir de nombreuses molécules de signalisation. À la deuxième semaine, le disque didermique se forme, composé de deux feuillets, l'épiblaste et l'hypoblaste. À la troisième semaine, la gastrulation transforme ce disque didermique en disque tridermique par la mise en place du troisième feuillet, le mésoderme. La ligne primitive apparaît, définissant les axes de l'embryon. À la quatrième semaine, l'embryon placubidé, plicaturé qui lui donne une forme cylindrique. Le tube digestif primitif se met en place. Les débuts du tube neural apparaissent également. À partir de la cinquième semaine, l'organogenèse se poursuit activement. Le tube digestif se divise en trois régions. L'intestin antérieur, qui donnera le pharynx, l'œsophage, l'estomac, le foie et le pancréas. L'intestin moyen, qui donnera le jéjunum, l'iléon et une partie du côlon. Et l'intestin postérieur, qui donnera la partie terminale du côlon et le rectum. Les poumons se forment à partir d'un diverticule de l'œsophage, séparé des voies digestives par le septum trachéo-œsophagien. Conclusion. Ce cours d'embryologie veut à guider depuis la formation des gamètes jusqu'à l'organogenèse, en passant par la fécondation, la segmentation et la gastrulation. Ces processus, bien que différents selon les espèces, reposent sur des mécanismes cellulaires et moléculaires fortement conservés au cours de l'évolution. Leur connaissance est fondamentale pour comprendre le développement normal de l'animal et les anomalies qui peuvent survenir. Fin du cours d'embryologie. Institut national supérieur d'élevage de Moussoro, année académique 2025 à 2026.